Version sonore du numéro 41 de L'Envolée, avec des entretiens et des textes d'Afed Bednotman, voleur, écrivain et cofondateur du journal, pour en finir avec toutes les prisons.
Les condamnés à perpétuité vont trancher dans le vif du sujet, voire même tailler dans le gras du citoyen.
Première partie.
A comme affranchi.
Combien en prison ?
17. 17. Et comme je dis toujours, avec modération, c'est-à-dire comme l'alcool, en trois fois. Voilà. Une fois 9, une fois 6, une fois 9 et une fois 3. Et comme je suis quelqu'un de pas croyant mais de mystique, le 3, le 6 et le 9 sont des dates importantes dans ma vie. Parce que je suis né le 3 septembre 60. Donc 3, 9, 6. Alors je pense que maintenant que j'ai fait ma date de naissance au niveau carcéral, ça devrait être bon.
Je suis né le 3 septembre 1960. Français musulman d'Algérie. L'Algérie était alors française. Sauf que les autochtones et les arabes étaient considérés comme des sujets français, et non pas comme des citoyens français. Quand en 1962, il y a eu les accords d'Évian, les Algériens ont évidemment opté pour la nationalité algérienne. Les autres ont demandé une intégration à la nationalité française afin de devenir citoyens français. Lorsqu'en 1962, mes parents ont opté pour la nationalité algérienne, nous étions dans le mythe du retour au pays. C'est ainsi que leurs enfants sont d'office devenus algériens. Mon casier judiciaire remonte à l'âge de 15 ans. J'étais très jeune, et la première fois que j'ai été incarcéré, j'avais 16 ans. Je ne pouvais donc plus opter pour l'intégration à la nationalité française, puisque c'est impossible avec un casier judiciaire. Beaucoup de familles explosaient à ce moment-là. Si en 1976, j'avais dit à mes parents que je voulais devenir français, cela équivalait à dire en 1946 à une famille française que l'on voulait devenir allemand. J'étais néanmoins, à cette époque-là, non expulsable, puisque le droit du sol existait. Et lorsqu'en 1994, Charles Pasqua l'a transformé, je suis devenu ce qu'on appelle un double peine. J'encourais donc, à partir de 1994, des risques d'expulsion. Sauf qu'il y avait la Convention européenne des droits de l'homme, avec notamment les articles 6 et 8, permettant à tous les expulsés nés sur le territoire français de demander un recours débouchant sur une condamnation de la France. Même si ça prenait 3, 4 ou 5 ans, de nombreux ressortissants renvoyés dans leur pays d'origine entamaient la procédure. La France était ainsi dans l'obligation non seulement de faire revenir les personnes, mais de les dédommager financièrement. Le nombre de condamnations de la France l'avait placé au même niveau que la Turquie. Sarkozy a voulu réformer la double peine, tout en maintenant qu'il ne s'agissait en aucun cas de l'abolir. En clair, ça signifie que l'on n'expulse plus les personnes inexpulsables et que les condamnations morales de la France sont en baisse. Alors même qu'ordre est donné aux préfectures de ne pas remettre de papier. De toute façon, lorsqu'elles en remettaient, ceci n'était pas valable plus de 3 mois et portait la mention « n'autorise pas son titulaire à travailler ». Ce qui fait que délinquants et criminels, qu'ils soient amateurs, cas sociaux ou professionnels, se sont retrouvés dans l'incapacité, à leur sortie de prison, de louer un appartement, d'avoir un compte bancaire et de travailler légalement. Cela signifiait forcément le travail au noir et la mise en esclavage au service de patrons pas toujours corrects. Je suis encore aujourd'hui, en 2010, sans aucun papier d'identité. Alors, je pratique la guérilla sociale. J'ai ouvert un petit commerce avec un réseau d'amis qui, même s'ils ne sont pas fortunés, m'aident. Ce sont la fraternité et l'amitié qui me sauvent. Quelqu'un qui n'a pas eu la même chance que moi est irrémédiablement poussé à la récidive. Bien que toujours sans papier, je reste inexpulsable. Alors, on m'étrangle socialement, en m'empêchant de me réinsérer. Tout ce que le système me propose, c'est un recyclage perpétuel, comme prisonnier. La prison a commencé par une part égale de chance et de malchance. La chance d'avoir été élevé dans un quartier culturellement et économiquement riche, à savoir le 6e arrondissement de Paris, à une époque où il n'y avait encore ni le boom intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, ni le boom économique de la construction de la tour Montparnasse. C'était le quartier latin, avec beaucoup d'artisans, de petits fonctionnaires et de petits commerçants. Lorsqu'il y a eu cette explosion culturelle et économique des 6e et 14e arrondissements, nous n'avions plus les moyens d'y vivre. Mon père était ouvrier, et nous avons tous, mes parents, mes frères et mes sœurs, été dépassés. Mon père s'est accroché et nous a serré la ceinture, en commençant par lui-même. Je me suis finalement trouvé distancé par mes camarades de classe, qui, eux, étaient quasiment tous issus de milieux bourgeois. Je dois également souligner que dans notre immeuble, nous étions la seule famille maghrébine ouvrière. Les autres familles étaient quasiment toutes françaises ou européennes, notamment espagnoles ou portugaises. Nous avons donc gagné ce loto social qui consistait à être logé dans une HLM à Paris. Notre famille a été tirée au sort. Deux parents algériens immigrés avec seulement 4 enfants. Nous avons servi de caution et d'alibi à toute cette barre d'immeubles située en plein cœur du 6e arrondissement. Cette distinction sociale avec mes camarades et cette comparaison ont fait que très tôt dans l'enfance, je me suis fait voleur. Ce n'est pas une histoire de délinquance. L'une de mes sœurs est devenue avocate, mon frère a fait de la mise en scène au théâtre, mon autre sœur a épousé un banquier. J'avais donc toutes les cartes en main pour arriver à quelque chose, à condition d'accepter la pauvreté. Or, très tôt, je ne l'ai pas accepté. Je suis devenu voleur et commerçant. Tout ce que je volais, je le revendais à mes camarades de classe, plus fortunés, puisqu'ils avaient de l'argent de poche. Je ne peux donc pas me considérer comme une victime sociale. Le mot délinquant porte en lui l'idée d'une victimisation, celui de voleur, un peu plus de révolte et de choix.
Z comme zonzon.
Bon, les QHS, ça fait quoi, 30 ans, 35 ans qu'on a aboli le nom? On va remettre ça à la mode, là. Parce que la mémoire historique, la mémoire carcérale, elle est partie. Et je crois qu'il faut s'appuyer sur cette mémoire des luttes.
Le prisonnier, la prisonnière devient cette poupée russe où les uns s'enferment dans les autres à l'infini. Le prisonnier, la prisonnière porte en lui, elle, le conjoint qui lui-même renferme en son creux la multitude familiale et relationnelle. Femmes, parents, amis, jusqu'aux enfants bien plus mis au silence qu'au secret. Cette poupée gigogne est statufiée que l'on visite au parloir et, comme dirait l'autre, dont les lèvres sont excisées du jouir de la parole. La parole surveillée par l'administration pénitentiaire et auto-censurée par le prisonnier, la prisonnière, et le visiteur comme par crainte de lapsus plus que révélateur. Celui, celle qui dit à vous la trahison ou la tromperie. L'abandon, la désertion, la souffrance et l'espoir. Ne serait-ce qu'en posant la terrible question de savoir si le prisonnier, la prisonnière, doit enfermer l'autre, celui, celle qui est dehors, dans l'histoire de son crime ou délit.
Le lien entre un prisonnier et un SDF. S'il y a un SDF qui vit dans la rue, qui est dans un carton, pour moi c'est un prisonnier. Donc l'enfermement, je ne le réduis pas à l'architecture carcérale, les murs, les barreaux. L'enfermement, le pire, c'est celui qui est à l'extérieur. Parce que quand on est à l'intérieur, ben, on a toujours la possibilité, la liberté de dire non. Voilà, donc on peut scier un barreau, on peut creuser un tunnel, mais quand on est enfermé à l'extérieur, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de mur. Et c'est très dur de s'évader. Donc je préfère la prison dure que la prison extérieure, ce que j'appelle le cinquième mur. Car j'ai été enfermé entre quatre murs pendant 17 ans, en trois fois. Et quand je suis sorti dehors, souvent j'ai été confronté à ce cinquième mur qui lui est... Si on ne le voit pas, parce que c'est un mur invisible et un mur porteur, si on ne le voit pas, c'est très dur de lutter contre.
En prison, tout passe par l'écrit. Si vous voulez voir un médecin, il faut lui écrire. Si vous voulez voir le surveillant, il faut lui écrire. Si vous voulez voir le juge, il faut lui écrire. Il faut écrire à tout le monde. Celui qui, à l'intérieur de la prison, ne sait ni lire ni écrire, a vraiment un handicap social grave. Il est obligé de se mettre sur une liste d'attente jusqu'à ce que l'écrivain public l'appelle. Quand il a une urgence, il doit demander aux copains. Mais c'est toujours difficile de demander à un autre prisonnier d'écrire une lettre parce qu'il est dans votre intimité. Vous ne pouvez pas être certain qu'il ne va pas le répéter ailleurs. Il y a aussi des pièges terribles. Un prisonnier peut, par exemple, prendre les adresses d'un autre prisonnier et à sa sortie, aller voir sa famille en prétendant qu'on l'envoie demander de l'argent parce que leur fils, qui est en prison, en a besoin, ou bien aller consoler la pousse. Il y a des monstruosités de ce type où l'amitié est complètement galvaudée. Il est très difficile pour un prisonnier de faire confiance à un autre prisonnier.
Comme envolé.
Le mot détenu, il m'horripile. On détient un objet et on emprisonne une personne. Il faut évidemment employer le mot de prisonnier.
L'envolé a été créé en 2001. Le Canard Enchaîné a fait un dossier sur la censure et décrété que notre journal était le plus censuré de France, voire d'Europe. Pendant le dernier procès que nous avons eu pour diffamation, le président du tribunal correctionnel de Beauvais a osé dire « Les faits dénoncés dans l'envolé sont avérés mais mal formulés. » Nous avons reçu une condamnation. L'aventure de l'envolé a commencé de manière radiophonique. Je correspondais de l'intérieur de la prison avec une radio anarchiste, Radio Libertaire. Ça a duré pendant des années. J'envoyais des textes qui n'étaient pas des témoignages mais des opinions. Je fais une grande différence entre le témoignage et l'opinion. Les victimes témoignent et les politiques donnent leur opinion. J'estime avoir moi aussi le droit de donner mon opinion, sans être obligée de témoigner. Puis, nous avons fait une année à Radio Libertaire. Un ami qui avait entendu parler de moi dans les prisons françaises m'a rejoint et nous avons décidé de créer l'envolé. C'était un hommage à Serge Coutel, qui est le premier en France à avoir fait évader ses amis par hélicoptère. Le générique de notre émission, c'est le son d'un hélicoptère au décollage. L'envolé est sur fréquence Paris Pluriel tous les vendredis. Nous nous sommes aperçus que nous touchions Paris, la Grande Couronne et la région parisienne, mais pas la province. Francine, mon actuelle épouse et compagne, a alors suggéré que pour toucher la province, ce serait bien de créer un journal. Et c'est ce que nous avons fait afin de diffuser à Marseille et dans les autres villes de France qui n'étaient pas à l'écoute. Les prisonniers qui, à Paris ou en Grande Couronne, étaient nos auditeurs, ne pouvaient plus capter l'émission. Dès qu'ils étaient transférés, c'est aussi un peu à leur demande qu'on a créé ce journal. On a commencé à avoir des abonnés à l'intérieur de la prison. Notre problème, c'est que l'administration pénitentiaire refusait de donner le journal gratuitement, alors que normalement, pour les prisonniers, il est gratuit. Je fais une différence entre prisonniers et détenus. On détient un objet et on emprisonne une personne. Les politiques détestent que l'on utilise le mot prisonnier. Ça leur rappelle trop franchement le prisonnier de guerre ou le prisonnier politique. Notre journal porte en quatrième de couverture l'article du Code de procédure pénale qui interdit à l'administration pénitentiaire de le censurer. Dans la mesure où il n'est pas censuré à l'extérieur, il ne peut pas être censuré à l'intérieur. Seul un journal censuré au dehors peut l'être au dedans. Mais l'autorité de la prison a trouvé un système vicieux. Elle ne dit pas que le journal est censuré, elle dit qu'il est simplement retenu et remis plus tard aux prisonnières et aux prisonniers abonnés. Elle le dépose dans ce que l'on appelle la fouille. Lorsqu'on est arrêté et que l'on arrive en prison, on nous prend notre téléphone portable, nos clés, nos papiers d'identité. Tout ça est entreposé dans un endroit que l'on appelle la fouille, dans de grandes enveloppes et de petites valises noires en carton. Et on retrouve ses affaires à la sortie. Mais on n'y a pas accès pendant la détention. Ce qui fait que lorsque les prisonniers sortiront, ils auront 20 ou 30 numéros de l'envolée dans leur bagage. À part ça, tous les autres journaux sont en vente sur les bons de cantine ou par abonnement. On peut avoir tous les journaux. À la prison de la Santé, il y a déjà eu une très forte protestation parce que la direction pénitentiaire avait osé mettre Minute sur les bons de cantine. Les prisonniers ont dit « Si vous mettez Minute sur les bons de cantine, mettez-y donc aussi l'envolée ». Résultat, Minute n'a jamais été sur les bons, pas plus que l'envolée. Par contre, lorsque j'étais incarcérée, on me donnait l'envolée. Pour moi, le journal n'était pas mis à la fouille. Il y a des prisonniers qui sont des bêtes noires de l'administration. Pas tant parce qu'ils sont dangereux que parce qu'on les considère comme revendicatifs et procéduriers. Ils savaient que j'irais au tribunal administratif et que je les emmerderais un maximum. C'est aussi ce qui m'a valu de ne jamais obtenir d'aménagement de peine.
Quand on a créé le journal, on ne voulait surtout pas entendre parler de témoignages. Quand un prisonnier envoyait un témoignage, on dit « Envoie-le à Mireille Dumas, ton témoignage !» Voilà, nous on veut des opinions. Voilà. Et la plupart du temps, les prisonniers qui écrivent à l'envolée, comme ils sont un peu capistés, parce que souvent, c'est des mecs qui sont tellement piégés dans le piège carcéral à cause des longues peines, c'est les premiers à avoir écrit, qui n'ont rien à perdre, grosso modo, entre guillemets. Donc, ils amenaient une opinion, et c'est pour ça que l'envolée a été détestée. Si on avait été un journal de témoignages, ou de demandes de petites annonces. Voilà, j'ai jamais vu autant de gens qui cherchaient du mobilier. Je cherche correspondante, entre parenthèses, si possible jolie, pour meubler ma solitude. Voilà, il veut des meubles, il n'y a rien dans sa cellule, il a déjà un chien et tout, il veut des meubles en plus. Donc, enlevez le mot témoignage par le mot opinion.
R comme racaille.
À chasser les enfants de leurs plus beaux rêves d'enfance, nous les hébergeons dans nos pires cauchemars d'adultes.
À propos de racaille, ici en prison, on commence à recevoir 5% de surveillants racailles issus des banlieues ghetto. Et je vous jure que ça fait bizarre de les entendre nous donner des ordres et des consignes avec l'accent rap ta mère. Et c'est bizarre car dans le regard de ces jeunes surveillants, il y a comme de la honte. Ouf, ils ne sont pas encore tout à fait perdus. Et j'espère qu'ils auront la bonne idée d'arrondir leur fin de mois. Info, dans la soirée du 7 novembre, vers 19h, nous avons perçu une sympathique voix portée par un mégaphone, invitant les taulards à rejoindre le mouvement des banlieues. Merci à celui ou celle qui est venu nous faire un coucou. Et merci à lui de bien articuler à la prochaine tentative de parloir sauvagement collectif. La deuxième division est au milieu des deux autres. Et il y a beaucoup de grosses peines et d'anciens onzonneux. On est un peu dur d'oreille, mais prêt à se prendre en main. Pour la révolution avec les jeunes des banlieues et les automômes, petits bourges des quartiers chics complexés de l'être. L'envolée voulait faire un morceau sur la jeunesse, ben en voilà un morceau. Les enfants de 14 ans en difficultés multiples pourront sortir de prison à 13 ans et 364 jours pour devenir apprentis esclaves en conditionnel le jour de leur anniversaire. AFED, maison d'arrêt de Fresnes, février 2006.
salir la mémoire de la police française, c'est la décrasser de ses amnésies.
T'es comme tout nu.
Il m'est de plus en plus difficile de parler de la prison, car je n'ai pas été au cœur de la prison, là où ils tuent les hommes, les quartiers d'isolement. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des quartiers de la mort, et j'ai pesé mes mots, là où le système ne fait plus de quartier. Le couloir de la mort est un couloir dont la porte ne s'ouvre même plus sur la mort biologique, mais sur un enfer légal, codifié. Le pire des enfers, puisqu'au-delà de la damnation et en deçà de la rédemption, il n'y a aucun espoir d'innocence, comprendre d'enfance. L'État infantilise dans le seul but de commettre ensuite le crime d'infanticide. La nourriture ancestrale de tous les molochs, qu'ils soient religieux ou non. L'exécution de l'enfance fait bander les puissants, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les isolés sont transférés les yeux bandés. Entendez bien cela, les yeux bandés, comme la justice. Cette salope s'est incarnée dans l'homme isolé, a fait de lui son domicile. Elle habite l'homme comme n'importe quel démon de merdique théologie. L'isolé ne pense qu'à ça, ne vit que par ça, ne souffre que par ça, la justice, et ce qu'elle lui fait subir dans la peur et la solitude. Il ne peut y avoir d'autre exorcisme social qu'une révolution humaine. Pourquoi bander les yeux de Ferrara ou de Bonal, alors qu'ils sont transférés, extraits par des hommes cagoulés? Pourquoi? Parce qu'on bande les yeux des condamnés à mort. Symboliquement, il y a là une exécution réelle et concrète, une façon de leur dire qu'ils ne verront rien venir. Du sadisme d'État à l'État pur. Pourquoi les mettre dans le noir lorsqu'ils sont déplacés? Il s'agit bien de cela, les plonger dans le noir, et non plus de je ne sais quelle mesure de sécurité. Et de quoi les enfants ont peur? Du noir. Pourquoi? Parce qu'ils y voient des monstres. Si demain, l'État pouvait créer une machine de science-fiction pour extirper des années de vie aux condamnés, afin de les rajouter à la leur, ils le feraient, sans hésiter. D'ailleurs, ce n'est pas tant de la science-fiction, puisqu'en Chine, ils prélèvent les organes des condamnés à mort pour les greffer, et cela revient à faire mourir les uns pour prolonger la vie des autres. Et de quels autres, si ce n'est ceux qui ont les moyens de se payer cash un organe? Le temps de vie pris aux prisonniers les rend de plus en plus puissants. Ce serait bien de réfléchir à ce genre de choses et de voir vraiment leur vraie gueule de vampire. Lorsque je dis qu'il m'est de plus en plus difficile de parler de la prison, c'est à cause de ce sentiment d'être privilégié. La prison que je vis me paraît très soft, en comparaison à ce que je sais sur le cœur de la prison, les quartiers d'isolement, QI. Et lorsque je regarde mes co-détenus, je sais qu'ils ne savent pas ou n'ont pas conscience de ce qui se passe dans les QI. Pour eux, c'est abstrait, et ils le nient presque en disant que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, je crois, ils ne supportent pas d'imaginer qu'il y a pire que ce qu'ils vivent, dans le même lieu, mais dans une sorte de monde parallèle. D'où l'existence du mitard. Ils pensent que la dureté de la prison s'arrête au mitard. Alors leur parler d'un au-delà du mitard, leur dire ce que je sais sur le cœur de la prison, les QI, et lorsque je cherche à les convaincre que le mitard n'est qu'un sas qui ouvre sur pire, l'isolement, ça les dépasse. Ils n'y croient pas. Nous sommes 1500 prisonniers. Et combien entendent la phrase de Ferrara qui dit « Je suis isolé des isolés même ». Comment visualiser la réalité de cette phrase? Ils n'y arrivent pas, alors ils préfèrent penser que ça n'existe pas. C'est pourquoi, aussi, la masse carcérale ne bouge pas. L'inconscient collectif a peur de cette réalité à laquelle il n'a pas été confronté. Au sujet des moyens de lutte contre les QI pour les mois à venir, j'ai une idée qui pourrait mettre une merde phénoménale. Mais elle est tellement zarbi que je me demande si les hommes pourraient la mettre en application. Ou plutôt, s'ils oseraient le faire. La plupart des garçons dans les QI sont prévenus, et de ce fait, se déplacent vers les tribunaux. Il faudrait réfléchir donc, je dis réfléchir alors que j'ai envie de dire agir, à une grève des vêtements. Puisqu'ils considèrent les prisonniers comme des animaux, qu'ils nous mettent à poil pour un oui ou un non, pourquoi rester habillé ? Imaginons une grève des vêtements. À poil dans les cellules, à poil pour aller aux douches, au parloir avocat, etc. Ok, ils vont faire sauter les parloirs, mais les extractions, eh oui ! Demande de mise en liberté provisoire suivie d'appel avec demande à comparaître. Les voilà dans un pataquès d'un autre monde, et cela sans violence. On peut même se réclamer naturiste, comme d'autres se disent végétariens. C'est une idée, discutons-en. Elle m'est venue en voyant les gars aux douches. Beaucoup se lavent en gardant leur slip, alors qu'ils se mettent nus devant les matons pour les fouilles. Qu'est-ce que c'est que ces pudeurs pseudo-respectueuses ? Dans des cabines de douche individuelles où pour voir le cul du voisin, il faut vraiment entrer sous la douche. Et cette soumission de la pudeur face à un maton qui dit « Allez mon gars, tourne-toi et lève la plante des pieds !» Bref, voilà un peu un bout de gamberge.
Ce sont mes potes, j'aime les coyotes. C'est ma camelote, j'aime les coyotes. Ils ont la cote, la meilleure note. C'est pour eux que je vote. J'aime les coyotes, les dents qui chottent. J'aime les coyotes, qui boit pas de flotte. J'aime les coyotes, pas les petites fiottes, ni les despotes. Je suis pas idiote. J'aime les coyotes, j'aime leur parlotte. J'aime les coyotes, même s'ils radotent. J'aime les coyotes quand ils me chuchotent leurs anecdotes, pas rigolotes. J'aime les coyotes, oui ma cocotte. J'aime les coyotes, j'suis à leurs bottes. J'aime les coyotes, quand j'en dégote, un je l'emporte dans ma roulotte. J'aime les coyotes, en papillote. J'aime les coyotes, j'les démaillote. J'aime les coyotes, j'les déculotte et je leur rote leur redingote. J'aime les coyotes, je les dorlote. Les coyotes, je les pelote. J'aime les coyotes, je les chipote. Je les tripote, suis pas mon sote. J'aime les coyotes, je leur mets les menottes. J'aime les coyotes, je les ligote. J'aime les coyotes, mes chères mascottes. Ils me rendent haute comme une bouillotte. J'aime les coyotes, ce sont mes potes. J'aime les coyotes, c'est ma camelote. J'aime les coyotes, ils ont la cote, la meilleure note. J'suis pas idiot.
Y, comme yo-yo.
Yo-yo, danse avec les rats dans les prisons de Fresnes. Les tribus du 9-3 rappent leur peine à la chaîne. Yo-yo, fais passer le yo-yo. De fenêtre à fenêtre, à travers les barreaux. Perpète ou pas perpète ? Telle est la question. À l'école du crime, les gamins dans les cours apprennent la rime entre toc et balourd. Yo-Yo fait passer le yo-yo de cellule à cellule sous l'œil des miradors. Attention à ton cul que torche les rapports. À l'école des parloirs, tu coffres dans ton bide la fumée du mitard que crame le suicide. Yo-Yo fait passer le yo-yo de CD en centrale, de l'écrit à l'oral. Tourne un petit journal, à ça une la cavale. Au fond du trou du cul, la belle des prisons de France, matière grise en cellule, s'évade dans la conscience. Yo-Yo fait passer le yo-yo à l'envolée radio quand t'entends hélico, politico, droico, arrache ton cerveau.
En 68, le mot d'ordre de De Gaulle, c'est « Nos enfants sont dans la rue, je ne veux pas un mort ». Donc quand ces enfants des classes un peu aisées, se retrouvent à l'intérieur des prisons, évidemment que ça change les choses. Évidemment que ça change les choses.
Les affranchis de l'époque, beaucoup de politiques, parce que des années 68, etc., etc. Et on avait un très très gros atout, c'est que l'extérieur suivait la prison, avec le Foucault, avec le CAP, avec tout l'historique et la mémoire carcérale. Donc moi j'arrive dans une prison qui ne laisse pas indifférent le monde extérieur. Et c'est là où j'ai fait de très très belles rencontres, puisque à l'époque il y avait des annonces en Libération, un petit cahier qui s'appelait Sandwich, et qui listait toutes les prisons de France. Et les gens, les citoyens dehors, écrivaient aux prisonniers. Donc il y avait une petite noblesse dans le fait d'être un prisonnier. Et de droit commun. Parce qu'on avait un peu aboli le clivage politique et droit commun. C'est-à-dire que tout prisonnier était un prisonnier politique.
Brave entre les braves des quartiers d'isolement, Thierry Chadbi a été un des correspondants les plus actifs de l'envolée. Lorsqu'il s'est donné la mort quelques mois après sa sortie de prison, Afed lui a consacré ces quelques lignes.
Je t'ai rencontré en 1990 et tu aimais autant mes textes que j'aimais tes dessins. Quelque part, nous avons fait de notre côté la même bande dessinée. Toi avec ton côté Sam le pirate et moi tendance Daffy Duck, sa cartoons. On a quand même écrit quelques belles pages de l'envolée ensemble, toi avec ton talent et moi avec mon génie. L'inverse, si tu veux. Moi avec mon génie, toi avec ton talent. Pas cette inverse-là ? Ah merde. J'ai failli oublier que tu lâchais pas l'affaire avec tes potes polémiques. Je suis pas triste, mec, bien qu'un peu malheureux, puisque tu as fait un choix. Et franchement, je croyais pas que la mort ait assez de couilles pour monter sur le ring face à toi. Rapport que pour un type plutôt de gauche, t'avais une putain de droite. C'est peut-être pour ça que tu l'as convoqué avant l'heure. Et je suis sûr que cette salope porte-à-faux n'a pas réussi à t'avoir vivant. Pour moi, avec mon petit cerveau détraqué comme tous ceux qui combattent la folie et l'aliénation au jour la nuit, à chaque seconde, et qui surtout se combattent eux-mêmes pour ne pas devenir ce que ces enflures de puissants veulent que l'on devienne, ton acte est avant tout un acte d'amour, puisque tu t'es battu à fond contre quelque chose qui nous dépasse tous. Et tu as gagné, puisque ton ennemi, que nous ne connaissons pas, et qui ne regarde que toi, est resté sur le carreau. Et c'est bien. Au-delà des boules, je suis ok avec toi. Au-delà des glandes, je suis d'accord avec ton geste. La peur, mon copain, a dû avoir une trouille bleue lorsque tu l'as regardé dans les yeux. Je te laisse, petit viking. Je t'embrasse, grand samouraï. Bon, et puis comme tu as un peu d'avance sur nous, salut Joël, Jean-Paul et tant d'autres pour moi. Et à tout à l'heure, beau mec. AHB, lettre à l'envolée 2006.
Ce n'est pas la prison qui provoque le suicide, ce sont les échecs. Les gens arrivent en prison détruits, la prison les achève. J'ai 17 ans de placard et pas une seule coupure. J'ai passé des moments durs parce que je suis toujours allée au bout de mes peines. Mais je n'ai jamais rêvé la liberté. Je n'ai jamais comptabilisé ni géré mon incarcération en me disant que j'allais gagner une semaine. Au point que la dernière fois que je suis passée aux assises, le procureur a dit « Foutez ce mec dehors ». Il est plus dangereux en prison que dehors. On sait toujours situer l'ennemi. La dangerosité pour l'administration pénitentiaire et la justice, ce n'est pas le crime, mais la capacité à réfléchir et à agir. Voilà pourquoi je n'ai jamais été en souffrance en prison. Elle est pour moi un terrain de lutte, un territoire social et un espace de rencontre. Je n'étais pas verrouillée sur moi-même, j'étais avec les autres.
comme Uppercut.
Ce n'est pas du temps que l'on nous prend, c'est la vie.
Je n'aime pas beaucoup les branleurs, et encore moins qu'ils se paluchent sur moi. Il y a beaucoup de choses que je ne suis pas, et ce n'est ni la faute de papa-maman, ni celle de la société, ni celle de personne. Je n'ai jamais eu l'ambition de devenir quelqu'un dans le monde que je n'ai jamais eu envie de refaire. Durant mes procès, la société a toujours eu tendance à se prendre pour le Christ, en m'obligeant presque à lui coller mon crime sur le dos, en plaidant la misère sociale. Athée jusqu'au bout, je ne l'ai jamais laissé me voler mon crime, et j'ai toujours soutenu mordicus ma culpabilité lorsque je ne pouvais pas nier tout simplement les faits. Innocent ou coupable, blanc ou noir, je méprise toute justice qui s'essaye à prendre sur elle un péché mais qui me laisserait le soin de souffrir l'enfer de la punition. Je ne veux pas de circonstances atténuantes, car je ne veux pas que la société s'acquitte à travers moi. Lorsque je suis coupable, il me plaît d'avoir l'humanité entière comme complice, non comme martyr. Les Forcenés, 1992.
Je crois à la justice de mon pays. Rigole l'apatride. C'est un apatride qui dit cela. Quelqu'un qui n'a pas de pays, et donc pas de justice. Il est évident que je ne crois pas du tout en la justice. Ni de mon pays, ni de tout autre pays. Quant à la disproportion de la peine, elle est évidente. En tant que voleur, et je précise bien qu'il existe une grande différence entre un voleur et un voyou, j'ai eu la chance de ne pas avoir de sang sur les mains. L'argent volé, je suis en capacité de le rendre. En admettant que je gagne au loto, je peux rembourser à une banque 1 million d'euros. Aucune banque ne peut me rendre en échange, ne serait-ce qu'une petite seconde de ma vie. C'est pour cette raison que je dis que la cellule est un loyer. C'est évidemment une boutade. Beaucoup de gens disent qu'en prison, on est blanchi, nourri, logé. Et c'est vrai, mais à quel prix ? Ce loyer est énorme. Ce n'est pas du temps que l'on nous prend, c'est de la vie. Mon temps, je l'ai rempli. C'est de la vie que j'ai perdue. Je mets derrière le mot justice le mot impunité. Je suis d'accord avec l'idée d'une justice et d'un jugement, pas forcément avec celle d'une punition. La justice se résume aujourd'hui à la punition, et non pas à la compréhension que la personne doit avoir de son acte. J'ai écrit dans un de mes aphorismes « Un voleur n'est jamais malhonnête ». Il n'est jamais malhonnête parce que ce qu'il met dans le plateau de la balance, ce sont sa vie et sa liberté. Il prend un risque et il donne quelque chose. La justice sera pour moi fiable, correcte, intègre, le jour où il n'y aura plus d'impunité. Or, il existe une très grande impunité relative au statut social. Que l'on attende 50 ans pour juger un Maurice Papon, qu'on le condamne à 10 ans et qu'il n'en fasse que 2, on est à mon avis dans la plus complète impunité. Un policier écrase une personne au feu rouge sur les passages cloutés, et il y a encore impunité. Je ne peux pas cautionner cette justice-là. Si d'un côté, lorsqu'on s'attaque à des biens, on purge des peines de prison en années, et que de l'autre, en portant atteinte à la vie d'une personne, il existe une impunité cautionnée par l'État, je considère alors le juge qui me condamne comme un imposteur, un imbécile, un incompétent ou un salaud. Parce que juste derrière moi, quelqu'un aura le droit à l'impunité. J'ai des amis qui sont condamnés à des peines de 25 ans et ils n'ont pas la moindre trace de sang sur les mains. Il y a bien sûr les séquelles psychologiques sur les victimes, mais ils ne se sont attaqués qu'à des biens. La magistrature est aux ordres du politique, et cette justice-là, je ne peux pas la cautionner. Il m'est arrivé, en cours d'incarcération, d'avoir de gros soucis de santé. J'ai eu maille à partir avec des médecins incompétents, mais je n'ai pas porté plainte. Je n'allais pas lancer une procédure contre 4 quidam à qui l'on a fait croire que je simulais afin d'aller à l'hôpital et de pouvoir m'évader. Je ne porte plainte auprès de la justice que si cela met en cause l'institution. C'était la même chose dans mon métier de voleur. Je me suis attaqué, autant que je le pouvais, à des institutions, rarement à des personnes.
Mes livres, comme le journal ne sont pas là pour faire bouger le système carcéral ou la justice. Je ne suis pas un réformiste. Je ne cherche pas à améliorer la prison ou la justice. L'écriture est une lutte qui n'a rien à voir avec une évasion hors des murs. S'évader, c'est scier des barreaux et prendre le risque d'une balle dans la tête. Sûrement pas ouvrir un livre. J'ai tellement de respect pour le mot « évasion » que je refuse de le brader, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. L'écriture joue pour moi le rôle d'une confrontation au réel. Je suis quelqu'un qui n'est pas dans l'imaginaire. Quand Martin Luther King dit « J'ai fait un rêve », il y a sans doute quelqu'un qui, depuis les prisons américaines, lui répond « Martin, si tu as rêvé, c'est que tu dormais ». J'essaye surtout, par l'écriture, de montrer les failles. Par exemple, lorsque je dis que je n'ai pas de sang sur les mains, je mens, puisque je fais partie d'une humanité qui commet des crimes collectifs auxquels je participe. Le Rwanda, l'Afghanistan, l'Irak. C'est aussi ce que je mets en perspective dans mes romans. Le parallélisme entre le crime individuel et le crime collectif. Il est évidemment beaucoup plus facile de crier haro sur le baudet ou le fou qui tue et viole un enfant car cela permet de se dédouaner du crime collectif. On désigne le monstre et les citoyens, par ailleurs impuissants, devant les crimes collectifs réagissent en demeurant lâches sur tous les autres crimes. Et on accable le baudet. Je ne veux surtout pas changer la justice. Je n'ai pas envie d'améliorer mon ennemi.
I comme ironie. En prison, il n'est pas bon de combattre la folie de front. Il faut l'épuiser peu à peu, en acceptant de devenir fou une heure ou deux par jour, en jouant. Si on l'affronte d'un coup, elle nous prend d'assaut et personne n'y résiste. Il faut donc inventer ses propres jeux et jouer pour la déjouer.
Il n'y a pas de justice, il n'y a que des lois. Et j'en suis hors depuis l'âge de 15 ans. La première fois qu'un dossier pénal s'est ouvert contre moi, il m'a semblé qu'une boîte de Pandore m'avait explosé en plein cœur et qu'à la différence du mythe, il ne me restait pas même l'espoir d'espérer la moindre espérance. Si ce n'est la répétition de ce jour de prison qui revient, identique chaque matin, sur lui-même, lové dans l'inutilité, et ne cesse d'être une pierre roulée au sommet de la nuit. Aujourd'hui, âgé de 40 ans, au grand désespoir des psychiatres envoyés par le parquet, je n'arrive toujours pas à jouer la fumisterie des responsabilités qui devraient m'ouvrir l'esprit en une mue afin de devenir adulte, mature. Hé, je rigole, vous parlez d'une limonade, mature moi, qui n'arrive pas à vieillir où ma jeunesse vieillit. J'ai, dans la vie, purgé 16 années de prison. Si elle devait servir à quelque chose, je crois qu'à cette heure, je serais l'homme excuse, l'homme alibi, l'homme expérience, la preuve par neuf qu'on peut revivre après avoir vendu sa vie à l'ordre social. Mes années d'incarcération ne m'ont appris qu'une seule chose, mon ricanement. Les forcenés, 1992.
J'aime bien le polar, mais je n'en ai jamais écrit. Je n'ai jamais fait d'enquête. Et si un jour, je raconte une enquête, il est inutile d'acheter le livre. Il n'y aura pas de coupable. Si je veux écrire un roman où la science apparaît, avec notamment la recherche d'ADN, je changerai de genre pour la science-fiction. Ce sera une anticipation de la réalité. Du point de vue du lyrisme, dans l'écriture, je me considère comme un cancre. J'ai arrêté l'école à 15 ans, je n'ai pas de diplôme, je ne suis même pas autodidacte. Toutes mes connaissances viennent de mes rencontres. J'ai parlé à de véritables assassins, à des personnes qui avaient tué. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'humain. Le roman noir, pour moi, c'est Dostoïevski. C'est ça ma filiation. J'essaye de répondre à une question
que le cancre en moi n'a pas comprise. Je dis souvent, même si ça peut paraître absurde, que je ne suis pas un écrivain, je suis la matière de l'écriture. Et mon éditeur en fait de la littérature, de la même façon que l'on fait de l'essence à partir du pétrole.
Prince des montants l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Autre signe indiquant toute absence de tare, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru décent de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne, sans arrière-pensée, après mûr examen. Ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle, avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage. Ne va pas tout lâcher en solde aux receleurs. Tiens-leur la dragée haute en évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs. Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir. Ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi, je t'en prie, sur un bon souvenir. Monte en l'air, mon ami, que mon bien te profite, que Mercure te préserve de la prison. Et pas trop de remords, d'ailleurs, nous sommes quittes. Après tout, ne te dois-je pas une chanson? Post-scriptum, si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics même comme chaland.
Oh, comme houille. Salut les Toons. Quitte à être condamné, autant que ce soit à vous écrire. Comme vous le savez, c'est plutôt difficile de me faire bosser, et de mémoire d'envolée encore plus pliée. Les affranchis pigeront la pliure sous-entendue. La semaine dernière, j'ai été extrait pour l'hôpital et ce fut folklorique. Passé les 45 ans, je deviens vraiment biodégradable, et après les dents, le cœur, le zozio, voilà-t-il pas que j'ai un œil qui merde et tourne au glaucome. D'ici que je sorte avec une main et une gimbal en moins, je pourrais demander une promesse d'embauche pour jouer les Captain Crochet à Disneyland. Peter Pan a intérêt à protéger son cul, des fois que des années de branlette m'aient fait virer pointu. Nul n'est à l'abri. Donc me voilà parti pour les binocleries à l'hosto d'ID 15-20. Surprise. 3 surveillants vêtus de pare-balles et 4 flics en escorte. Menottes dans le dos avec chaînette pour être tenue et entrave aux pieds. J'arrive à l'hosto et on traverse le hall plein de monde qui nous regarde avec des yeux de citoyens cinéphiles. L'escorte fait bonne figure en tordant la gueule méchamment, en me regardant comme l'ennemi public numéro 52, afin que le public pense que je suis un méchant de je sais pas gentil. Arrivé devant l'appareil à me mesurer le glaucome, voilà-t-il pas qu'on me laisse des menottes dans le dos, et l'escorte explique qu'ils ne peuvent pas détacher le glauque-homme que je suis et pas plus lui passer les menottes devant, alors que j'ai besoin de mes mains pour appuyer sur une touche au bout d'une sorte de souris informatisée à chaque fois que je vois un point visible sur l'écran dans la boîte dans laquelle on m'a fichu la tête. Que nenni. L'infirmière, gloire à son décolleté, se penche donc sur moi et arrive, grâce à la flexibilité du cordon élastique, à me filer le beeper dans la main suite à la trouvaille d'une rallonge, et me voilà donc œil par œil à cliquer à chaque soucoupe volante que je vois. Mais voilà Tipac, dans la chaleur ambiante, je me mets à bodisser un maximum et que ça me coule de partout la sueur avec le début de la canicule. Alors à la fin de l'examen, je réclame à boire, et comme l'aurait dit le père de Victor Hugo, j'entends le maton dire à l'infirmière « Donne-lui tout de même à boire ». La belle tend donc un verre de flotte minérale au Quasimodo entravé que je suis. Mets les mains dans le dos, hein. Comment tu fais si tu n'as pas une trompe d'éléphant en guise de paille? Eh bien, elle m'a fait boire, et comme tous les misérables, j'ai été ému jusqu'au fond de la vessie. Sauf que ce n'est qu'un fantasme. C'est ce bip 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 de surveillant qui m'a fait glouglouter l'œil tout attendri devant le faux fauve qui semblait faire biberonner. Je m'en suis retourné tout retourné à mes cellules, et voilà donc que cette fois-ci, une vieille infirmière nous stoppe dans le couloir et nous fait suivre un chemin maquisardant dans les couloirs de l'hosto afin d'éviter la grande salle d'attente du grand hall d'entrée. Moi qui comptais me prendre la cheville dans l'entrave et m'étaler de tout mon long en m'écriant mon innocence à l'injustice, j'en fus pour mes frais. Nous sommes revenus par le même chemin et bodissant de plus belle dans le camion sans clim, le surveillant m'épongea avec un Kleenex le front comme Marie-Madeleine épongea Monsieur le Christ. Prenez soin de vous et bonnes vacances aux amis et familles dehors. Salut aux hommes, femmes, enfants, transsexuels incarcérés. PS, c'est possible d'avoir un autre concert de soutien pour ma PlayStation? Afed Ben Othman, lettre à l'envolée 2005.
P comme perverse.
L'administration pénitentiaire gère en perverse les dossiers des détenus et s'amuse à créer des cohabitations contre nature. Le pédophile est le père de famille, le psychopathe et le jeune primaire, le braqueur et l'alcoolique ou le toxicomane, l'honnête homme et le caïd. La peine de 20 ans est celle de 2 mois renouvelable par une autre peine de 2 à 6 mois au fur et à mesure des libérations. La peur de la mort et l'angoisse de la vie. Ces couples carcéraux, intelligemment réunis dans le nid des cellules pour que l'un se méfie de l'autre qui le surveille au quotidien, travaillent à pacifier la prison dans la paranoïa. La liberté possible des uns, dépendant de l'enfermement certain des autres. Le détenu devenu maton prisonnier, quelquefois, très rarement, le fait divers criminel d'un côté, la bavure professionnelle de l'autre, et tout se rééquilibre dans la plus grande des violences faites à l'humain, sa soumission.
Dans le fond, la prison n'a pas changé. Que ce soit dans les années 1970 ou 2000, ça reste insoutenable, puisque c'est du domaine de l'enfermement. Ce que eux appellent des améliorations relève du confort. Si tu as de l'argent, tu peux cantiner une télé par exemple. Mais avec ou sans la télé, tu restes enfermé entre quatre murs. Le fond n'a pas changé. Si on t'enferme pendant 20 ans dans une chambre du plus beau palace de Paris, tu pètes les plombs aussi. Pour le reste, ça s'est évidemment aggravé. D'abord, les peines sont plus longues. Il y a désormais des perpétuités réelles. Avant, un condamné à perpète sortait au bout de 15 ou 20 ans. Maintenant, ce sera au bout de 25 à 30 ans. Sous prétexte de confort carcéral, on a allongé les peines, alors qu'on se fout du confort en tôle. Ce qui est horrible, c'est de se faire prendre un long moment de sa vie. Moi, je suis un voleur. Mais je ne suis jamais tombé dans ce que l'on appelle l'irréparable. Si demain j'écris un best-seller qui se vend à 3 millions d'exemplaires, je pourrais aller voir les banques et dire « je vous rembourse ». Je pourrais le faire. Mais je ne ferai bien sûr jamais. pour la bonne raison que eux ne me rendront jamais une seule seconde de ma vie. Je n'ai jamais tué personne, donc jamais touché autant de vie des autres. Eux, si. Entretien dans Article 11, 2008. C'est le système qui ne veut pas de la réinsertion. Le système ne réinsère pas, il recycle. Et il recycle perpétuellement un prisonnier en prisonnier. Vous savez ce qu'est un prisonnier ? Ce n'est pas une personne en marge, c'est quelqu'un qui est au cœur du système, qui se lève à telle heure, qui mange à telle heure et se couche à telle heure. Il est réglé comme une pendule. On a le même schéma pour les prisons que pour les casernes, les hôpitaux et les écoles. Le prisonnier est au cœur de la société. Il n'y a pas plus inséré que lui, pas mieux socialement.
Comme que.
D'un organe de plaisir et de vie, la prison fait un objet de torture et de mort. À refuser la castration, j'avais arraché de mon ventre tout désir. Je n'étais plus qu'un fantasme. Il m'a toujours paru drôle que le ministère de la Culture ouvre ses frigos afin de payer des intervenants extérieurs pour culturiser par des spectacles, des ateliers dessin, sculpture, écriture, théâtre, des blablas thérapeutiques que la population pénale cautionne par peur de l'ennui pour certains, pour sentir la liberté venue de dehors pour d'autres, pour écouter la voix d'une femme pour la plupart lorsque l'intervenante en est une. Et le pire, pour porter un nouveau masque cultivé, nous remplir le cerveau, nous alléger par le plaisir de faire quelque chose de notre merde, nous ouvrir l'esprit et surtout nous ouvrir les poings. Enfin, toutes ces choses dont les artistes discuteront à la télévision, ou au cours de colloques coliques, en parlant de cet interdit du plaisir qui sévit derrière les murs mais que les détenus prennent tout de même en s'évadant de leurs conditions pour atteindre le nirvana de la pensée. Pour moi, mon cerveau est lié directement à ma queue. Si l'un est prisonnier, castré, l'autre ne peut plus, ne veut plus vivre. Dans mes nuits de sueur, dans mes fièvres spermées, je crois que j'aurais étranglé Victor Hugo en lui entourant sa quéquette autour du cou pour avoir une seconde, un entretien hautement philosophique et culturel avec la plus conne, la plus moche, mais la plus salope des actrices du X américain. À ma décharge, je crois que Victor Hugo ne m'en aurait pas voulu.
Moi, la culture en prison, pour des raisons très perso et puis politiques, c'est quelque chose que je ne cautionnais pas. Parce que l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice se servent toujours de la culture pour présenter les prisons en disant « Voyez, ils font de la guitare, ils font du théâtre, ils font des ateliers d'écriture. » Mais sur 800 prisonniers, il y en a 20 qui participent à tout ça. Et les autres, ils crèvent quoi. Sauf cette fois-là, où Virginie, qui est une femme, vient dans une prison d'hommes et dit qu'elle va faire un atelier d'écriture érotique. Là, je me fais. Elle en a. Je parle des ovaires, bien sûr. Alors là, je vais soutenir l'atelier, parce que l'administration pénitentiaire a voulu bloquer l'atelier, comme elle est arrivée en tant qu'écrivain par le ministère de la Culture. Elle n'avait pas fait attention au thème, le thème de la littérature érotique.
La castration chimique, c'est quelque chose de dangereux parce qu'elle a été tentée. Et on s'est aperçu que le viol, l'esprit est dans la tête, et que les types ont été violés avec soit des armes, soit des objets, hein, des bouteilles. Et voilà. Donc il faut faire très. Ça se passe dans la tronche, hein, ça se passe pas dans le froc. Je ne peux pas donner cet avis-là, parce que je sais que dans l'esprit, il y a une notion d'humiliation, de sadisme, qui n'est pas forcément une pathologie mentale. Quand 20 militaires passent sur le corps d'une femme dans un pays en guerre, est-ce que c'est des malades mentaux ? Si c'est des malades mentaux, il faut condamner les États qui ont donné des armes à ces gens-là.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison,
and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
S comme stigmate.
Qu'est-ce que le terrorisme ? Un groupe armé mu par une idéologie qui s'en prend à des civils innocents. En un sigle, les CRS.
On a criminalisé la pauvreté. Les gens, avant, étaient condamnés à des peines pécuniaires. On leur filait des amendes. Vous avez été arrêté en état d'ivresse ? Amende. Les gens n'ont plus de pognon. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les fout au placard. Et quand on les fout au placard, moi j'appelle ça la gestion de la misère sociale. Parce que la misère est une matière première. La personne, elle est radiée des listes de la NPE. Si elle a eu la chance d'avoir une petite chambre de bonne, son propriétaire est ravi de changer les serrures et de mettre ses affaires à la porte. Et elle est criminalisée. Donc, on gère ce qu'on appelait à l'époque, et qu'on appelle aujourd'hui encore, les classes dangereuses. Ça passe par la prison. Quand vous voyez un SDF dans la rue, soit vous lui donnez une pièce, soit vous ne lui en donnez pas. Peu importe. Mais quand on croise un SDF dans la rue, on dit « Ça, c'est pas normal. L'État devrait faire quelque chose. » Et quand un policier passe devant ce SDF, il lui dit « Monsieur, circulez. » Il circule. Et voilà. 10 rues plus loin, un autre policier passe, le même SDF. « Ah non, monsieur, là, vous ne pouvez pas rester là !» Au bout de la journée, il a passé 5 ou 6 euros pour s'acheter un camembert ou une bouteille de pinard. À un moment, il va rentrer dans un magasin et il va voler. Bon, il va pas aller en prison tout de suite, mais au bout de 2 ou 3 fois, on va le mettre en taule. Vous passez dans la même rue, et là où vous êtes indigné pour ce même SDF, vous le voyez derrière les barreaux, vous vous dites « Ah, c'est qu'il a dû faire quelque chose !»
Dans les années 90, au moment de la guerre du Golfe, il y a eu un genre de fierté arabo-maghrébine et musulmane, touchant les personnes qui avaient vécu le plus grand nombre d'échecs, dont la prison était le dernier. Cette population carcérale immigrée a relevé la tête en se disant qu'elle avait en Saddam Hussein son champion, un peu comme aujourd'hui les Afro-Américains avec Barack Obama. et l'administration pénitentiaire a favorisé l'islamisation parce qu'elle pacifiait la prison. Des imams autoproclamés, qui étaient quand même de petits caïds, ont commencé à expliquer aux plus jeunes que s'ils étaient en prison, c'est que Dieu l'avait voulu. On n'était plus sur le terrain du social. Ce n'était pas parce que vous étiez au chômage ou parce que vous preniez de la drogue. C'était Dieu. Une fois que les jeunes l'avaient intégré, ni le juge, ni le surveillant, ni le ministre de la justice, ni l'État n'étaient plus les ennemis. En fait, l'administration pénitentiaire a fait jouer l'islamisation contre l'extrême gauche carcérale. J'ai été stigmatisé ainsi que d'autres mecs qui considéraient également la case prison comme une pure gestion de la misère sociale. Ça a été la révolte des gueux. Nous demandions des douches et des parloirs supplémentaires. Nous demandions de meilleures conditions de détention. Nous étions minoritaires et de transfert en renvoi en quartier d'isolement, l'administration pénitentiaire nous a cassés. Elle a très largement favorisé l'islamisation. Elle s'est quand même fait avoir sur la durée. Des jeunes prisonniers musulmans qui, derrière l'injonction à respecter les préceptes de Mahomet, avaient recouvré une certaine santé physique et mentale. On commençait à ouvrir les yeux. Comparer l'architecture de la prison à celle des cités, c'est la même. Quand des jeunes de prison française sortent de leurs cellules pour aller dans leur cour de promenade foreclose, ça se passe de la même façon que lorsque les jeunes de banlieue descendent de leurs immeubles et restent sur le parking. Les jeunes qui arrivent en prison ne sont pas dépaysés, hormis peut-être par les barreaux. Ce sont les mêmes discussions et les mêmes groupes qui se créent. L'islamisation n'a touché que les couches populaires immigrées les plus pauvres.
Satan l'habite. L'administration pénitentiaire, la justice, la police, l'armée, les gouvernements, etc. croient dur comme fer qu'ils ont raison et que nous autres, qui subissons leur dressage citoyen autoritaire ou démocratique, avons tort. Ils veulent nous éduquer par tous les moyens à partager leurs pensées et à agir comme eux, avec eux, parmi eux et pour eux. À leurs yeux, chaque critique que je fais du système est un blasphème contre l'ordre établi qui permet la vie communautaire. En cela, si je dois respecter leurs croyances en la société et au-delà en la civilisation, je ne peux plus émettre aucune autre critique que celle radicale du suicide. Je ne veux pas vivre avec vous et comme vous, donc je m'efface. Si par contre je décide de les tuer physiquement ou symboliquement pour imposer ma vérité et mon point de vue, je fais en sorte d'être dans la nécessité d'un rapport de force et en cela je les agresse, je les attaque, je cherche à les réduire de toutes les façons possibles. Ceci vaut pour ce grand mot, la société, qui englobe des milliards d'êtres humains, comme cela vaut pour cet autre grand mot, la religion, qui en englobe tout autant. Si je ne peux attaquer avec la plus grande virulence la religion, alors je ne peux attaquer avec la même virulence la société, et de cause à effet, la prison. Blasphémer contre un lieu de culte ou contre un lieu carcéral est du même domaine, puisque je touche aux sensibilités de ceux qui bâtissent les deux et croient de bonne foi, argument à l'appui, que c'est un bien pour l'homme, malgré quelques petits défauts de ci, de là. Par exemple, les morts suspectes pour les prisonniers et l'anathème sur les femmes dans les religions monothéistes. Alors, comment lutter en ménageant les susceptibilités des uns et des autres afin de ne pas froisser la croyance du prêtre et celle du juge ? Accepter, au nom du respect et de la liberté d'autrui, d'avoir tort devant le plus grand nombre, s'entendant sur les règles et les lois, dont la terminologie est la même pour l'homme de Dieu que pour l'homme socialement civilisé. Je ne peux pas vivre en contradiction, mépriser de toutes mes forces le maton qui m'enferme en étant persuadé qu'il fait le bien de tous et même le mien, et respecter le croyant professionnel qui essaie par la censure de me mettre à genoux en m'expliquant qu'il a raison et que c'est autant pour mon bien que pour le respect de tous. La meilleure preuve du lien entre l'ordre religieux et l'ordre social est bien la proposition de loi visant à réprimer, par des articles du Code, le blasphème. Si nous devons respecter cette loi, si certains la trouvent juste et bonne, alors nous devons toutes les respecter, même celles qui nous font le plus souffrir, puisque c'est la loi des plus grands et plus puissants que nous, qu'ils soient déistes ou capitalistes. Rendez à César ce qui appartient à César, a dit Jésus en montrant une pièce à l'effigie de l'empereur. Rendez à César la monnaie de sa pièce, a dit Spartacus en montrant le poing sous le nez de l'empereur. Je crois en Spartacus et en tous les faux monnayeurs. Et à tous les Césars, je montre un faux culache, mais un vrai cœur vaillant. Vous les croyants, ne voyez-vous pas dans les livres dits sacrés une Bible code, un Coran procédure et une Torah pénale? C'est une vraie question que je pose et sans aucune ironie. S'il n'y a que moi qui le vois et qui le comprend, alors ce n'est pas compliqué, je suis fou et il faut m'enfermer davantage et pour toujours. La Bible dit que le royaume des cieux est ouvert aux simples d'esprit. Et moi je dis que le royaume de la simplicité est ouvert à tous les esprits. Je suis en prison pour me battre, pas pour me plaindre et censurer. Ou pire, m'auto-censurer. Encore moins pour renvoyer à l'envolée mes propres échecs. Si demain, je décide, en accord avec ma pensée, mes amitiés et mes amours, de sortir de prison, j'en sors. Mort ou vif, mais j'en sors. Et l'envolée n'a rien à voir dans ce choix-là, si ce n'est pour lui donner le plus large écho possible, pour le répercuter dans l'espace et dans le temps, les plus grands possibles, c'est-à-dire minuscules, à échelle humaine.
Il n'y a pas d'islamisation radicale dans les prisons françaises. Prisons qui, soit dit en passant, ne se transforment pas en boîte d'intérim pour terroristes potentiels. Si c'était le cas, au sein d'un des pouvoirs répressifs de l'État que sont les prisons, il y aurait des attentats violents intramuros. Le fameux djihad commencerait sur place, par des agressions mortelles sur le personnel pénitentiaire, ce qui n'est pas le cas. Je vais essayer de développer. Ce n'est pas la pensée religieuse qui islamise la population carcérale, mais l'indigence sociale. Il faut savoir que 90% de cette population est en état de grande paupérisation. C'est l'indigence qui fait que même des Français d'origine française basculent en écoutant les discussions que les musulmans tiennent, comme de véritables colloques dans les recoins des cours de promenade, sur des pelouses pouilleuses ou sous des préaux insalubres. Que se passe-t-il donc dans nos bonnes vieilles prisons? C'est simple. Depuis le début des années 1990, après les grandes émeutes revendicatrices de la fin des années 80, l'administration pénitentiaire a encouragé l'islamisation afin d'assurer la pacification des prisons. De la même manière que les élus, maires et autres, ont appelé les imams de tout poil à la rescousse lors des émeutes de banlieue. L'administration pénitentiaire a facilité la prise de parole de certains musulmans, imams autoproclamés, une manière de caïda, contre des prisonniers pouvant créer des mouvements de revendication sociale. Aussi bête et simple que ça. L'administration pénitentiaire a été prise alors à son propre jeu, quand les jeunes prisonniers sensibles au discours religieux se sont insensiblement mis à observer une bonne hygiène de vie. Beaucoup ont cessé de fumer shit et tabac. Ils se sont mis au sport, ont changé de langage, la vulgarité verbale indispose le divin. Ils se sont moins bagarrés entre eux et se sont débarrassés petit à petit de cette addiction terrible, intramuros, la pornographie, qui éteint le prisonnier frustré sexuellement. Avant, l'abrutissement généré par l'administration pénitentiaire, par la télé, etc., se confrontait à l'abêtissement distillé par la religion. Faire venir des imams en prison, c'est casser les imams autoproclamés qui revendiquent uniquement pour leur culte. L'administration pénitentiaire s'est laissée dépasser par cette nouvelle génération de prisonniers pour la simple et bonne raison qu'elle n'a plus prise sur eux. Quant au terrorisme, il est plus à craindre des milieux intellectuels et étudiants que des prisonniers musulmans qui, une fois sortis, pour pouvoir bouffer, retournent dans la spirale de la survie économique et reprennent illico leur petit business. Après la discrimination, vient la criminalisation. Montrer les prisons comme des lieux générant le terrorisme en est la parfaite démonstration. Et comme disait l'autre, j'ai rencontré Dieu en prison. Que faisait-il là? Oh, il y était pour escroquerie.
Version sonore du numéro 41 de L'Envolée, avec des entretiens et des textes d'Afed Bednotman, voleur, écrivain et cofondateur du journal, pour en finir avec toutes les prisons.
Moi, je ne prends pas de la liberté. Hein. Je pense qu'on est transféré du zoo de Vincennes à la réserve de Thoiry.